DW. Magazine Santé.
Les violences sexuelles et sexistes, des violences qui se présentent sous différentes formes et qui sont aggravées par les crises sécuritaires. 70% des femmes et enfants vivant dans les zones de conflit en seraient victimes. Si ces violences ont des répercussions sur les survivantes, elles affectent également toute leur communauté. Et on en parle avec le docteur Étienne Langlois. Il est le directeur scientifique du Partenariat pour la santé des mères, nouveau-nés et enfants à l'Organisation mondiale de la santé. Avec lui, il sera aussi question de la prévention de ces violences sexuelles, mais également de la prise en charge sanitaire et psychologique des survivantes dans ces contextes de crise. Vous écoutez Capsule Santé, Carole Assignon au micro. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, docteur Langlois.
Bonjour.
Alors, la violence sexuelle et sexiste, hein, s'est aggravée avec la multiplication aussi des crises dans le monde. Pour commencer, quelle est actuellement la situation, notamment en ce qui concerne l'Afrique?
Oui, bien, vous avez raison, le monde, là, en ce moment, connaît aujourd'hui un nombre sans précédent de conflits. On parle de 35 conflits armés qui sont documentés pour l'instant par les Nations Unies en Afrique. Donc, on parle de 70 % des décès civils qui sont des femmes, des enfants. En Afrique, ben malheureusement, il y a plus d'une fille sur cinq qui est victime d'un viol ou d'une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. Et c'est aussi sur le continent où on voit le taux le plus élevé violence entre partenaires intimes et de féminicide. Donc, tout ça, évidemment, c'est exacerbé par les conflits, par vraiment la tempête parfaite qu'on voit dans ces contextes-là, à l'intersection des conflits, des catastrophes naturelles, des migrations, de la pauvreté. Donc, tout ça engendre vraiment une augmentation flambée de violences sexuelles et de violences liées au genre à l'encontre des femmes, des adolescentes et des enfants.
Vous avez commencé un peu à parler de la forme que prennent ces violences. Vous avez parlé notamment de viol. Est-ce que ces violences sexuelles se présentent également sous d'autres formes?
Oui, tout à fait. On parle d'esclavage sexuel, de réduction en esclavage, donc des femmes et des jeunes filles qui sont enlevées, qui sont contraintes à l'esclavage sexuel, qui subissent des agressions sexuelles répétées. Ça a été documenté notamment en République démocratique du Congo, en Éthiopie. On parle aussi de prostitution forcée, donc de victimes qui sont contraintes de se soumettre à des actes sexuels, souvent sous la menace de violence ou de mort. Et ben, vous avez mentionné des viols, il y a aussi des viols collectifs qui sont utilisés vraiment comme une arme là, pour terroriser, pour déstabiliser les communautés. Ça a été documenté notamment au Darfour, ces viols collectifs. Donc, évidemment, tout ça peut engendrer aussi des grossesses non désirées, des grossesses forcées qui ont un impact majeur sur la santé, le bien-être des femmes, mais aussi des communautés. Il y a aussi une exploitation sexuelle qui est encore pernicieuse, où les femmes, les jeunes filles sont exploitées à des fins sexuelles en échange de produits de première nécessité, comme de la nourriture, accès au logement. Et donc, tout ça entraîne vraiment une victimisation puis des abus supplémentaires. Et on a documenté ça notamment dans des camps de réfugiés au Tchad.
Et quelles sont les répercussions, justement, de ces violences sur les survivantes?
Pour les survivantes, ben, on parle de conséquences au niveau de la santé physique. Des survivantes qui souffrent de blessures, notamment aux organes reproducteurs, d'infections transmissibles sexuellement. On a parlé des grossesses non désirées, donc ça c'est majeur. Et souvent, ben, il y a une problématique reliée à ça, qui est un manque d'accès aux soins médicaux pour ces besoins fondamentaux. Il y a aussi une problématique qui est souvent mise de côté, qui est celle de la santé mentale. Il ne faut pas sous-estimer là, le traumatisme qui est causé par les violences sexuelles, qui est lié à des troubles mentaux, syndrome de stress post-traumatique, dépression, anxiété et des troubles donc qui sont vraiment fréquents chez les survivants. Et puis on parle d'impacts sociaux et économiques qui sont assez larges. Il y a une stigmatisation des survivantes, une problématique d'ostracisme social et de marginalisation. C'est vraiment toute une communauté là qui est affectée et aussi des difficultés économiques. Donc tous ces problèmes physiques et psychologiques qui empêchent les survivants de travailler, qui empêchent une certaine résilience au niveau de ces familles, de ces communautés et avec des conséquences à long terme.
Et concrètement, si l'on prend l'aspect de l'impact sur la santé mentale des survivantes, comment venir en aide à ces femmes? Comment les aider à se reconstruire, notamment après avoir vécu toutes ces violences?
Oui, ben, c'est vraiment, un, de reconnaître le problème et de s'assurer que dans les plans d'urgence, dans des plans plus à long terme, que cette santé mentale elle soit priorisée, que ce soit intégré dans la réponse et que ce soit reconnu. Donc, pour l'instant, il y a malheureusement un manque d'outils, un manque de capacité pour reconnaître, pour diagnostiquer ces problèmes. Et évidemment, le corollaire, c'est un manque de soins qui soient adaptés pour les victimes, pour les survivantes. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits quand même pour sensibiliser les travailleurs de la santé, sensibiliser les communautés, les leaders communautaires à cette problématique-là et s'assurer qu'il y a une co-création avec les communautés de soins psychosociaux, de services psychologiques qui soient adaptés au contexte, qui soit adapté aux communautés. Et puis ça, ben, c'est vraiment une question d'engagement aussi des victimes, de s'assurer qu'elles sont écoutées, qu'elles sont engagées dans la création de ces services psychologiques.
Mais ce n'est pas toujours facile hein, pour les survivantes de parler de ce qu'elles ont vécu.
Tout à fait. Non, il y a une énorme stigmatisation et c'est quelque chose qui est exacerbé aussi par la vulnérabilité que ces femmes vivent au départ. Hein. Et la stigmatisation a fait en sorte qu'il y a une exclusion des services de santé qui sont absolument nécessaires. Et il y a aussi des conséquences au niveau de ce qu'on appelle l'approche de parcours de vie, donc des conséquences à long terme qui peuvent même se voir à travers les générations.
Alors, dans les zones en conflit, il y a aussi une grande problématique qui se pose, c'est l'accès qui est limité souvent hein, aux contraceptifs, à la planification familiale ou encore aux soins d'avortement sûrs.
Oui, tout à fait. Si on voit des interruptions majeures, hein, interruptions au niveau des approvisionnements contraceptifs, services de planification familiale, qui expose les femmes évidemment à des grossesses non planifiées. Par ailleurs, ben, il y a les services d'avortement sûrs, les soins post-avortement qui sont un défi majeur dans ces contextes-là, avec des conséquences désastreuses là au niveau de la mortalité, de la morbidité maternelle et néonatale. Et évidemment, ben, c'est un problème qui est exacerbé pour des populations comme les adolescentes confrontées à une myriade d'obstacles à leur santé, leurs droits sexuels et reproductifs. On assiste aussi à une pénurie de soins prénataux, postnataux, et tous ces défis-là, ben, ils sont directement liés à une augmentation de la mortalité et de la morbidité maternelle et des nouveaux-nés. En Afrique subsaharienne, on a documenté 70% des décès maternels dans le monde. C'est énorme. Et puis, en outre, il y a l'absence de soins de santé adéquats qui vient aussi augmenter le risque de mortalité néonatale, en particulier pour les bébés prématurés, pour les bébés à faible poids de naissance. Il y a aussi une problématique au niveau des complications à long terme, un lien avec des problèmes de santé chronique, donc ces femmes-là qui subissent des avortements dangereux ou qui ont pas de soins maternels appropriés. Bien, on parle de conséquences à long terme au niveau de l'infertilité, de douleurs chroniques, de traumatismes psychologiques.
Et j'aimerais, docteur Langlois, qu'on parle aussi de la prévention hein, de ces violences sexuelles même. Dans les zones où il y a des conflits, c'est encore plus compliqué de parler de prévention.
Oui, vous avez bien raison. La prévention, c'est complexe, c'est compliqué, mais c'est fondamental, surtout pour la prévention de la violence sexuelle. Il devrait être vraiment de centrer ces services au sein des plans de préparation, des plans de réponse, des plans de reconstruction. Donc, vraiment de s'assurer que ces soins-là, ces services essentiels-là soient priorisés, soient reconnus. Alors, il y a toute la problématique là de la prévention qui est reliée au droit international aussi, hein, de s'assurer que on mette des mesures en place pour éviter ces viols, prostitution, esclavage sexuel. Il y a toute la problématique de la prévention qui est en amont et aussi de la prévention secondaire, donc au sein des conflits. Comment on fait pour assurer une prestation de services essentiels puis pour maintenir les services essentiels? Donc, nous, on en appelle un renforcement de la coordination pour s'assurer que les partenaires travaillent de concert et pour livrer ces soins de santé-là. Donc, on parle des ONG, des gouvernements, des groupe des Nations Unies. On parle aussi de services qui doivent être maintenus, donc s'assurer qu'il y a une priorisation des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et aussi d'engager le personnel de santé, donc de s'assurer que eux aussi soient protégés, parce qu'il y a toute la problématique de la violence, non seulement auprès des civils, mais auprès des travailleurs de la santé. Donc, comment s'assurer qu'on protège les travailleurs de la santé, qu'on leur offre un soutien aussi au niveau de la santé mentale et un soutien psychosocial. Et puis finalement, ben, toute la question de la réponse qui est alignée aux besoins locaux. Et ça, c'est souvent sous-estimé, c'est souvent mis de côté. Donc, toute la question de l'engagement, l'appropriation locale de la réponse et puis s'assurer que les communautés ont les outils pour être engagées dans cette réponse et s'assurer qu'il y ait des services qui soient en réponse à leurs besoins prioritaires. Puis ça, ben, ça va aider aussi au long cours à développer des soins là, de longue durée et à renforcer les systèmes de santé au niveau communautaire.
Oui, parce que le rôle des communautés dans ce processus est également très important.
Oui, c'est majeur. C'est majeur pour s'assurer que les interventions elles soient acceptables, qu'elles soient plus facilement mises en œuvre et qu'elles répondent à leurs besoins. Alors, si on leur demande pas, on le saura jamais. Et souvent, on a vu ça, hein, on parle de colonisation de la santé mondiale, du développement international. Donc, il y a un grand mouvement de décolonisation de la santé mondiale pour s'assurer que des interventions, notamment en zone humanitaire, en zone de conflit, que ces interventions-là soient vraiment entre les mains des communautés, qu'elles répondent à leurs besoins. C'est fondamental qu'on supporte les communautés pour qu'elles soient vraiment des co-créateurs, des co-agents de leur propre santé.
Les explications du Dr Étienne Langlois, directeur scientifique du Partenariat pour la santé des mères, nouveau-nés et enfants à l'Organisation mondiale de la santé. Capsule Santé, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute. D'ici au prochain numéro, eh bien, rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter ou réécouter le podcast de l'émission.